on se dirige du côté de Marc Saint-Onge. Il est directeur de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Bonjour, Marc Saint-Onge.
Bonjour, Madame Paquette.
Vous êtes à Trois-Rivières, c'est bien ça?
Le bureau est à Trois-Rivières, oui. Mais la QLPH couvre l'ensemble du Québec avec des représentants dans chacune des régions du Québec.
On est ici ensemble, Marc, pour parler de loisirs pour les personnes en situation de handicap. Des loisirs qui se veulent de qualité et ça doit répondre à certains critères pour qu'un loisir soit de qualité pour les personnes en situation de handicap.
Oui, en fait, vous savez, si on s'intéresse aux critères de qualité, ce sont les mêmes que pour tout le monde.
Mm-hmm.
Comme tout le monde, je suis différent. Donc, chacun d'entre nous avons des besoins bien spécifiques. On peut avoir des besoins plus particuliers d'ordre psychologique pour se détendre, par exemple. Mm-hmm. Je fais une activité de loisir et ce que je souhaite, c'est pouvoir vivre, retrouver ma bonne humeur parce que j'ai eu un moment plus de tension. Donc, il y a des attentes. Hein? Qu'est-ce qui fait en sorte que le loisir est significatif dans ma vie et a une contribution très positive? C'est que je puisse le choisir librement. Donc, déjà, en choisissant librement, je mets en valeur ma capacité à prendre des décisions. Je mets en valeur mes attentes, mes priorités. Vous savez, les critères de qualité, c'est un monde assez complexe en même temps en termes de motivation psychologique, mais aussi en termes de physique. J'ai besoin de faire de l'activité physique parce que je veux retrouver ma forme, surtout après le temps des fêtes.
Oui, ça, c'est vrai pour tout le monde.
Oui.
C'est intéressant, Marc Saint-Onge, parce que vous parlez de choisir, d'avoir ce loisir, hein, on parle de ça aujourd'hui, de choisir. Pour choisir, il faut qu'il y ait un choix. Ça ressemble à quoi l'offre en loisir au Québec pour les personnes en situation de handicap?
Vous savez, quand on parle de personnes en situation de handicap, le spectre de clientèle, si on peut l'appeler comme ça, est quand même très vaste.
Oui.
On a autant des personnes qui ont une déficience physique, intellectuelle, tu peux avoir un autisme, tu peux être déficit visuel. Alors, le spectre est très large. Quelle est l'offre? Si on se trouve en milieu urbain plus fortement densifié, tel que Montréal, par exemple, les choix sont beaucoup plus grands que lorsqu'on se retrouve en région, par exemple, lorsqu'on est en Gaspésie et on a très peu d'accès à du transport adapté. Alors, l'offre, elle est en fonction de chacune des régions. Comment chacune des régions se structure par les organismes communautaires, par les associations avec la municipalité, c'est varié. On peut s'intéresser aussi à qu'est-ce qui fait contrainte ou ce que je préfère, quels sont les facilitateurs à l'activité. Donc, dans l'offre, l'accès à des lieux physiques, par exemple, c'est un facilitateur dans l'offre. Donc, si j'ai accès à la piscine intérieure parce qu'elle est construite selon des principes d'accessibilité universelle, ben j'y aurai accès beaucoup plus que si cette piscine-là n'a pas de lève-personne, par exemple.
Oui.
Vous savez, donc c'est un peu... Ça, c'est un des facteurs. L'autre élément qui devient intéressant dans l'accessibilité, c'est la capacité d'accueil. Les gens, est-ce qu'ils conçoivent la différence comme étant problématique, comme étant des objets de crainte, hein, jusque-là? Alors, vous savez, l'accessibilité, elle se détermine en fonction de nombreux paramètres. Et je vous dirais, un qui est souvent négligé, c'est celui de la personne elle-même.
Oui.
Moi, c'est trop beau pour moi, je n'irai pas. Je n'ai pas les compétences pour y aller. Vous voyez donc, l'accessibilité peut se définir par l'environnement physique, l'environnement social, mais aussi tous les facteurs personnels.
Mais encore, faut-il semer en cette personne l'idée qu'il a la capacité et les ressources de le faire? Et je pense souvent à mon bon ami Luc Fortin, qui est non-voyant et qui est en apprentissage du tennis en ce moment, parce qu'il y avait une organisation pour l'accompagner dans cet apprentissage-là. Et j'ai souvent cette pensée, moi, qui vient de Mont-Laurier, de me dire, mais s'il était à Mont-Laurier, comment il pourrait apprendre ce nouveau sport-là, cette nouvelle activité-là? Il y a aussi, les régions loignées, on en a parlé, vous et moi, Marc Saint-Onge, mais aussi ces personnes, ces associations-là qui sèment la graine.
tu as les associations, tu as les personnes elles-mêmes et, vous l'avez bien dit, il y a des programmes qui existent, entre autres le programme d'accompagnement, qui fait en sorte qu'on va pouvoir se centrer sur les attentes de la personne elle-même. Qu'est-ce qu'elle veut? Ce à quoi elle aspire? Peut-être que ça peut nous paraître loufoque, certains projets, mais quand on prend le temps de l'accompagner et de regarder quels sont les accommodements possibles, parfois on trouve des ingéniosités tellement grandes. Vous savez, il y a une région avec laquelle je travaille. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait, ils appellent ça, je vais juste vous donner l'expression, un citoyen accompagnateur. Mm-hmm. Donc, dans cette petite municipalité-là, il y a un tag, hein, une espèce de macaron qu'on offre, et que si la personne handicapée veut faire quelque chose, elle sait que cette personne-là, elle est ouverte à lui donner des conseils, à l'aider. Ouais, il y a des aspects novateurs comme ça, qui sont des pratiques qu'on pourrait qualifier comme d'inspirantes, qui deviennent drôlement intéressantes pour soutenir une pratique dans une région plus éloignée, par exemple.
Ce sont ce que vous appelez les pratiques inspirantes, je pense, Marc Saint-Onge.
C'est un exemple de pratique qui pourrait être inspirante, oui.
Oui. Maintenant, dans les missions de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, j'imagine qu'il y a beaucoup la sensibilisation aux organismes, notamment dans des lieux, dans des régions où l'offre n'est peut-être pas si importante, de les amener à créer des loisirs, des activités pour des personnes qui vivent avec différentes limitations.
Bien sûr que ce qu'on vise, c'est faire la promotion de l'accessibilité aux loisirs, mais on vise aussi beaucoup le développement, vous l'avez bien traduit. Donc, ce que ça entend, c'est que moi, je travaille avec l'ensemble des représentants régionaux qui, eux, travaillent avec l'ensemble des organisations locales pour qu'on soit capable de répondre aux réalités régionales. Hein?
Oui.
Une région qui a une moins forte densité populationnelle, c'est sûr qu'on peut même moins mettre en place une équipe de fauteuils roulants, de personnes qui jouent basket en fauteuil roulant, par exemple. Un très vaste territoire, ça peut être plus restreignant. Donc, on trouve des solutions alternatives. On trouve des solutions dans lesquelles il y a différentes clientèles qui peuvent vivre des activités et qui deviennent drôlement intéressantes. Oui, oui. Il y a des aspects novateurs qui se passent à peu près partout au Québec, pas juste au Québec, mais notamment au Québec, et qui deviennent drôlement riches et de voir toute l'ingéniosité des gens qui sont là.
Donc, ce que j'entends, Marc Saint-Onge, c'est qu'il y a de l'ouverture auprès des organismes avec lesquels vous travaillez.
Ah oui, énormément d'ouverture, je vous dirais, avec les gens avec lesquels je travaille. C'est d'abord et avant tout une centration sur la personne et c'est une passion de pouvoir les accompagner dans la réalisation parfois de leurs rêves, de leurs ambitions, de leurs désirs. C'est des gens qui, les personnes handicapées, ce sont des gens qui veulent vivre comme tout le monde.
Oui.
Ce sont des gens qui veulent participer à la vie économique, qui veulent participer à la vie sociale. Ce sont des gens qui veulent être, non pas comme dépendants du système, mais être un citoyen actif à part entière.
Oui.
Oui, oui. Et l'ensemble des régions avec lesquelles je travaille convergent tous vers de tels objectifs. Oui.
Est-ce que les personnes qui participent à ces activités de loisirs mis de l'avant par l'association sont dans des groupes où tous les participants sont en situation de handicap ou parfois il y a aussi cette mixité entre des personnes qui ne vivent pas nécessairement avec un handicap et d'autres qui sont en situation de handicap?
C'est intéressant ce que vous dites. À une certaine période de temps, on cherchait strictement à ce que les personnes vivent avec toutes les autres, dans les activités génériques offertes par la municipalité, tout ça. Et on mettait un peu de côté les activités un peu plus dites ségrégées. Il y a des nuances qu'on apporte beaucoup aujourd'hui, parce que on peut très bien concevoir qu'un groupe de personnes qui ont une déficience intellectuelle apprécie particulièrement leur soirée de danse le vendredi soir parce qu'elles se retrouvent entre elles. Il y a des activités qui se trouvent dans une situation de plus grande mixité, et d'autres qui sont très, très intéressantes, qui se trouvent avec des groupes plus réservés, allant même dans des lieux plus spécialisés aussi. Il faut comprendre la personne sur ce qu'elle vit, sur son expérience, pour nous permettre de comprendre pourquoi c'est important de préserver de telles activités dans lesquelles il y a du non-mixte. Mais dans la mesure où c'est pas que ce qu'on leur propose. Il faut qu'ils aient accès aux activités de l'ensemble de la population.
Oui, et j'imagine que dans le cas où il y a cette rencontre-là, il y a de nombreux avantages aussi pour la personne qui ne vit pas en situation de handicap et qui connaît très peu sur la réalité, sur les enjeux, d'être en contact avec des personnes différentes peut amener à plus d'ouverture, également une meilleure compréhension.
Fondamentalement, j'ai fait quelques focus groups et entre autres, j'avais des personnes qui étaient ce que j'appelle des moldus, dans le bon jargon, c'est-à-dire des personnes non handicapées.
Oui.
Et j'avais aussi des personnes handicapées. Et dans le focus group, les personnes handicapées nous disaient, moi, d'avoir accès, par exemple, à la piscine qui est adaptée en fonction de mes besoins, ça me permet d'être autonome, même si j'ai besoin d'un accompagnateur pour mettre mon maillot de bain, mm-hmm. par exemple, parce que j'ai plus de membre inférieur ni supérieur, j'ai besoin de quelqu'un. Mais quand j'arrive dans l'eau, je peux me baigner, je peux être seul, mon accompagnateur peut faire. Donc, cette personne-là me disait tous les bénéfices qu'elle en procure de pouvoir partager des lieux communs avec tout le monde, puis de pouvoir échanger. Mais les gens des moldus, les gens de la communauté me disaient, moi, de voir qu'une personne qui n'a pas de membre supérieur ni inférieur peut être aussi autonome dans des ressources comme on les a, pour moi, ça change complètement le regard que j'ai sur cette personne-là. Et ça nous amène à considérer cette personne-là davantage comme des citoyens à part entière.
Ouais.
C'est fabuleux.
Ouais.
C'est fabuleux par des petits gestes concrets ou dans lesquels on n'a même pas besoin de parler, simplement que la personne handicapée puisse être heureuse dans ce qu'elle vit. C'est fantastique.
Oui. Ça apporte beaucoup de richesse dans la vie, dans un parcours de vie et dans les rencontres, les dialogues que l'on peut faire. Et ça se passe dans le plaisir, parce que le loisir est fait pour le plaisir. Et si ça peut engendrer d'autres bienfaits, bien sûr, c'est le bienvenu. Sur le site de l'Association québécoise pour les loisirs des personnes handicapées, AQLPH.qc.ca. Il y a une liste d'activités, d'organismes, d'associations partout au Québec, Marc-Saint-Onge, pour promouvoir le loisir pour des personnes avec différentes limitations. Si des gens nous écoutent en ce moment, qu'ils ont envie de démarrer une ligue, un cours de... ils vous appellent et on peut discuter pour créer de meilleures ressources pour ces personnes?
En fait, j'ai une expression qui dit « il ne faut pas réinventer le fauteuil à quatre roues ». Ce que ça veut simplement dire, c'est que parfois, il y a de nombreuses activités qui existent et qui ne sont pas suffisamment connues.
Mm-hmm.
Donc, dans un premier temps, regardons ce qui existe. Et dans un deuxième temps, si ça n'existe pas, regardons quelles sont les caractéristiques ou quelles sont les forces, les facilitateurs qui vont faire en sorte qu'on sera capable de le mettre en place. Mais nous, on peut orienter, on peut supporter, on peut diriger, on peut contribuer très certainement à de nombreux besoins, oui.
Marc-Saint-Onge, ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup.
C'est un plaisir réciproque, Mme Paquette.
Au revoir.
Au revoir.